Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Ludovic Auger. Le malheur ne peut se consoler qu'avec le malheur des autres, écrivait Henri de Monterland dans ses carnets. Et il faut bien avouer que dans cette étrange période, la tentation est grande d'aller observer nos voisins en espérant secrètement qu'ils s'en sortent moins bien que nous. Alors pour laisser libre cours à ce très noble sentiment, nous avons naturellement choisi la perfide Albion, première étape de notre série qui se poursuivra demain en Pologne et s'achèvera jeudi en Espagne. Le Royaume-Uni connaît l'une des pires récessions d'Europe. Son PIB a chuté de plus de 20%, fragilisant un peu plus un système social affaibli. Alors les Britanniques sauront-ils « Keep cool and carry on », rester calme et continuer selon le slogan de 1939 ? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons observer nos voisins britanniques en compagnie de Catherine Mathieu, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Je serre des mains en permanence. J'étais à un hôpital l'autre soir où il y a quelques personnes malades du coronavirus, je pense. Vous serez heureux de savoir que j'ai serré la main de tout le monde. Et je continue de le faire. Les gens peuvent se faire leur propre avis. Mais je pense que la chose cruciale est de se laver les mains. En Angleterre, à partir de lundi, nous allons mettre en place la règle des 6. Vous ne devez pas vous réunir en groupe de plus de 6 personnes. Et si vous le faites, ce sera une entorse à la loi. Cette disposition s'appliquera en tout lieu, à l'intérieur et à l'extérieur, à la maison et au pub. Elle sera inscrite dans la loi et sera mise en œuvre par la police. Ceux qui ne respecteront pas cette règle risqueront d'être dispersés, verbalisés, voire même mis en état d'arrestation.
Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Changement de ton chez Boris Johnson entre le 5 mai et le 9 septembre, on l'a entendu, après avoir tardé à prendre au sérieux la pandémie au printemps et alors que le nombre d'infections remonte au Royaume-Uni, le Premier ministre cherche aujourd'hui à ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Ah oui, effectivement, c'est vrai que le Royaume-Uni s'est distingué à l'intérieur de l'Union européenne, un peu comme la Suède en fait au début de la pandémie, en disant ben on ne fait rien, nous les autorités publiques, et nous allons en fait plutôt favoriser une immunité de la population. Donc en disant voilà, si 60% de la population est atteinte par ce virus, eh bien finalement ça ne sera pas très grave, tout se résoudra assez facilement. Et puis Boris Johnson fait partie des premières personnalités en fait à avoir été touché fortement par le coronavirus lui-même, à avoir été hospitalisé, à avoir dit à la sortie, vous savez, j'ai été prêt de ne pas revenir. Vraiment, il a été touché très gravement. Et depuis, effectivement, c'est un changement complet dans la politique qui est menée par le Royaume-Uni, avec des règles très strictes, dont celle dont vous venez de parler dans le reportage avec la règle des 6, donc qui interdit à plus de 6 personnes de se rencontrer, de 6 personnes de foyers différents, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on est vraiment passé de règles d'absence de règles, en fait, à des règles très strictes. Et effectivement, ce que souhaite le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est d'éviter que se reproduise ce qu'il y a eu au début de l'arrivée de la pandémie au Royaume-Uni, c'est-à-dire une montée très rapide du nombre d'hospitalisations, une montée très rapide du nombre de décès, malheureusement. Aujourd'hui, le bilan pour le Royaume-Uni, c'est un peu plus de 41 000 décès dus au coronavirus. On est à peu près 30 000 en France.
Seule la Belgique fait pire en Europe.
Oui, oui, c'est vraiment, en fait, effectivement, on parle moins souvent de la Belgique, mais c'est la Belgique qui a le nombre de décès par habitant qui est le plus élevé. Mais le Royaume-Uni ne se place pas non plus en très bonne position. Et donc, en fait, du côté britannique, on souhaite montrer qu'on peut réagir, qu'on sait réagir et qu'on va arriver à réduire ce nombre de décès. Mmh. Et effectivement, il semble que la stratégie qui a été mise en place maintenant depuis quelques mois au Royaume-Uni fonctionne. Hein. On a un nombre de décès qui chute. Hein. Aujourd'hui, l'Office national statistique a indiquait qu'on était au nombre de décès le plus faible au cours de la dernière semaine depuis le début de la pandémie. 78 décès seulement, entre guillemets.
Mais des depuis, cas, des, un nombre de cas qui remonte, qui explique cette décision effectivement de limiter, d'interdire les rassemblements de plus de 6 personnes alors qu'ils étaient jusque-là limités à 30. Alors il y a quelques exceptions, on peut se rassembler à plus de 6 évidemment, dans les écoles, sur le lieu de travail, et lors des mariages et des enterrements. Mais il y a vraiment cette idée au Royaume-Uni et du côté du gouvernement qu'il faut éviter à tout prix un reconfinement parce que, et notamment parce que la dernière fois, le confinement a été décidé trop tardivement, seulement le 24 mars, Catherine Mathieu.
Oui, effectivement, donc la décision tardive du Royaume-Uni de faire entrer l'économie en confinement, ça a coûté beaucoup de décès au Royaume-Uni et comme vous le dites, il y a le souhait d'éviter absolument un, de reconfiner et deux, d'éviter d'avoir à nouveau une montée du nombre de décès. Alors ce que font les Britanniques, c'est qu'ils suivent à un niveau régional et même local très précis l'évolution des cas. Et ce qui les inquiète, c'est de voir dans certaines villes, dans certaines régions, une remontée du nombre de cas très important. Alors qu'on impute aujourd'hui, un peu comme en France, au fait qu'il y a eu la réouverture des pubs au Royaume-Uni à comparer avec la réouverture des bars en France, et puis des cas qui ont beaucoup augmenté chez les jeunes. Mais pour l'instant, qui ne semblent pas toucher les personnes les plus âgées, et bien sûr, le Royaume-Uni souhaite éviter cela, d'où cette règle des 6.
Ce que l'on a beaucoup entendu tout au long de cette crise, c'est que si le Royaume-Uni a connu tant de décès, c'est à cause du manque de financement dont souffre le National Health Service, ce fleuron de l'État-providence britannique qui a été créé en 1948.
Je suis fier de la NHS. C'est un petit bout de vrai socialisme. C'est un petit bout de vraie chrétienté aussi, vous savez. Nous avons dû attendre longtemps avant qu'il arrive. Rappelez-vous, les jeunes, lorsque nous l'avons organisé entre 46 et 58, c'était dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Nous étions, comme le disait Sir Winston Churchill, un État en faillite. Mais néanmoins, nous l'avons fait. Et il n'y a aucun autre pays sur Terre, qu'il soit communiste ou capitaliste, qui ait un système de santé comparable.
Le ministre de la Santé et fondateur du National Health Service, Anurin Bevan, lors d'un discours prononcé en 1959, le NHS, ce système de santé universel et gratuit, fait la fierté des Britanniques, Catherine Mathieu. Ils y sont extrêmement attachés.
Oui, et ça c'est quelque chose qui est frappant, surtout dans un pays où on a, depuis l'arrivée de Margaret Thatcher à la fin des années 70, mis en avant la déréglementation, la baisse du poids de l'État dans l'économie. Ça a concerné tous les secteurs. Pratiquement sauf le NHS. Enfin, Margaret Thatcher elle-même s'était attaquée fortement au NHS et la situation ensuite du NHS a été très difficile parce qu'il y avait eu des années de sous-investissement pendant les années Thatcher. Et depuis, que ce soit les conservateurs ou les travaillistes, tous disent qu'ils vont remettre de l'argent dans le NHS, refaire de l'investissement public, recruter du personnel.
Remettre de l'argent, mais après que le NHS a beaucoup souffert, alors vous avez dit effectivement sous les années Thatcher, mais aussi sous les années Cameron, entre 2010 et 2016.
Oui, parce que quand David Cameron est arrivé au pouvoir en 2010, bon, c'était au lendemain quasiment de la crise financière, et à ce moment-là, dans le programme des conservateurs, il y avait le souhait de rétablir rapidement les finances publiques, de montrer qu'ils étaient crédible sur le plan des comptes publics. Et donc, je pense, à tort, ils ont décidé de réduire rapidement les déficits publics au Royaume-Uni, qui était vraiment dû à cette crise financière gigantesque qu'on avait tous connue à la fin en 2007, en 2008, en 2009. Et donc, en fait, ils ont commencé par réduire les dépenses publiques et repousser cette remise à niveau du NHS. Et donc, on voit bien, en fait, quand on regarde les dépenses publiques de santé dans le PIB, dans le produit intérieur brut au Royaume-Uni, qu'on avait eu l'amorce, qu'on avait eu même un début de rattrapage avec les années Cameron à partir de 1997, que ça s'est arrêté avec les années Blair, pardon. À partir de 97, que ça s'est arrêté en 2010 quand David Cameron est arrivé au pouvoir et que ça avait redémarré à partir de 2016 quand Theresa May est devenue première ministre. Donc on a quand même depuis 2016 du côté du parti conservateur qui gouverne au Royaume-Uni, pris en compte le fait que le NHS avait véritablement besoin de financement supplémentaire, que tous les Britanniques y étaient attachés et qu'on allait mettre de l'argent public dedans.
Mais est-ce que... Pardon de vous couper, Catherine Mathieu, est-ce que la prise de conscience n'a pas été trop tardive, puisqu'au moment où la crise du coronavirus éclate au Royaume-Uni, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un nombre insuffisant de lits et de soignants. Alors vous me direz, c'est ce qu'on a constaté un peu partout en Europe, mais quelques chiffres tout de même. Selon l'OCDE, 2,5 lits en moyenne au Royaume-Uni pour 1000 personnes, contre 6 en France et 8 en Allemagne. Également un manque de main-d'œuvre criant. Est-ce que ce système de santé britannique a payé le prix de ces années de coupes budgétaires ?
Oui, certainement. Il a payé le prix, je dirais vraiment indépendamment de la pandémie. Il y a vraiment eu à la fois donc un report des dépenses, de la hausse des dépenses d'investissement dans le secteur de la santé, des augmentations de salaires qui ont été très tardives pour le personnel de santé. Donc le Royaume-Uni se trouve à l'arrivée de la pandémie, ne pas être du tout dans une situation confortable du point de vue de son système de santé. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans le programme de Boris Johnson, lors des élections législatives de décembre dernier, qu'il a remporté haut la main, il y avait très haut dans les priorités le fait que si les conservateurs étaient élus, ils s'assuraient qu'il y aurait 50 000 infirmières qui seraient recrutées à partir de 2020. Et là aujourd'hui, je regardais les chiffres publiés par l'Office national statistique britannique et il y a eu une hausse de 33 000 emplois dans le NHS depuis 3 mois.
Donc alors, une promesse partiellement tenue.
On a l'impression, à la lumière de ce chiffre, que effectivement, le gouvernement britannique aujourd'hui, enfin, prend en compte les besoins d'augmentation, notamment du personnel de santé du NHS. Ça, il l'avait dit bien avant la pandémie. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est dans une situation où du coup, pour les hôpitaux, pour le système de santé en général, c'est très difficile de faire face. Mais comme vous le disiez tout à l'heure aussi, en fait, au début de la pandémie, quand on suivait l'évolution des débats politiques au Royaume-Uni et en France, on avait vraiment la même problématique. Le fait qu'il n'y avait pas suffisamment, indépendamment du nombre de lits dans les hôpitaux, mais c'était le nombre de lits en réanimation qui comptait particulièrement dans le cas du coronavirus. Et là, on était dans une situation très similaire des deux côtés de la Manche. Le fait qu'il y ait besoin de personnel, on était vraiment dans une situation très, très comparable.
Et le manque de masques également.
Tout, effectivement. La problématique était exactement la même. Donc, quand on compare notre situation à celle du Royaume-Uni, c'est vraiment très proche.
L'avenir du NHS est en tout cas un grand sujet de préoccupation pour les Britanniques. Comme le montre la série Years and Years, réalisée par la BBC et diffusée en 2018. Une série qui anticipe les 17 années à venir au Royaume-Uni. Alors, à quoi ressemble la NHS du futur? Dans l'extrait que vous allez entendre, la doctoresse annonce à la vieille Madame Lyons que les progrès de la médecine permettent d'en finir avec la dégénérescence maculaire dont elle est atteinte, sauf qu'il lui faut attendre 3 ans avant de bénéficier de l'opération ou alors payer 10 000 livres.
We create a patch out of a single stem cell and we cultivate that into a layer of cells and that gets transplanted into the eye.
And what's the result? How much eyesight will I have left?
Oh, you'll be cured.
I'll be cured?
That's the plan.
Cured? To what extent?
100%. Macular degeneration is a thing of the past, Mrs. Deacon. 10 years ago, you'd have gone blind.
Good God.
That is amazing.
It's astonishing.
I've got to point out, there is a waiting list of 3 years, but we can NHS fast-track you for £10,000.
Oh. That's a lot of money.
It's all the money I've got in the world. That's everything. Everything I was going to leave to my grandchildren, to my great-grandchildren. Oh, well. Sodom. Yes, please, book me in. Thank you very much. It's a terrible, terrible world, but I want to see every second of it.
C'est un monde terrible, mais je ne veux pas en rater une seconde, dit la vieille dame, qui demande à être placée sur liste d'attente. Alors la série Years and Years a connu un très grand succès au Royaume-Uni. Que vous inspire cet extrait, Catherine Mathieu? Qu'est-ce que cela nous dit de la peur d'une privatisation de la NHS, qui est une peur assez répandue au sein de la société britannique?
Oui, je dirais surtout que, encore une fois, pour les Britanniques, c'est vraiment important de garder ce système de santé britannique public auquel ils sont tous très très attachés. Et c'est d'ailleurs pour cela que, à la fois, bon, les conservateurs, les travaillistes, bien sûr, et les libéraux-démocrates ont toujours mis dans leur programme, enfin depuis maintenant plus de 10 ans, le NHS très en haut des priorités, en disant on va absolument remettre à niveau notre système de santé britannique. Et on pourrait dire, d'une façon assez paradoxale, pour ces Britanniques qui sont de façon générale plutôt en faveur d'une société libérale sur le plan économique, c'est toujours un petit peu étonnant de se dire, mais quand même, ils tiennent vraiment à ce système de santé publique qu'ils critiquent depuis très longtemps. En ça, je trouve qu'ils sont un petit peu français aussi dans leur critique permanente de leur système de santé. Mais en fait, pour améliorer ce système, il y a eu des années où il y avait toujours les commentaires sur les files d'attente, les délais aux urgences, les délais pour se soigner de maladies enfin très graves. C'était vraiment, et c'est un sujet sur lequel les Britanniques ne lâchent pas et disent on veut absolument maintenir notre système de santé publique. Et c'est ce que reflète bien l'extrait que vous avez diffusé à l'instant. Pas du tout une société à l'américaine où on a un système de santé privé qui coûte très cher, qui n'est pas le plus efficace du monde, loin de là. Les Britanniques restent attachés à ce système public, quoi qu'il advienne.
Un système qui aurait été beaucoup abîmé par certaines coupes budgétaires. C'est une critique assez récurrente que l'on peut entendre. Et parmi les autres critiques et les autres les éléments inquiétants dans la crise sociale que traversent les États-Unis avant même que la crise du coronavirus interviennent, c'est le fait que les progrès en matière d'espérance de vie enregistrés depuis la fin du 19e siècle ont commencé à ralentir en 2011. On peut dire que les inégalités se creusent toujours plus au Royaume-Uni, Catherine Mathieu, et là encore c'est l'austérité budgétaire qui est en cause.
Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Sur la question du creusement des inégalités, ça n'est pas si évident que cela, me semble-t-il, parce qu'en fait, il y a eu quand même au Royaume-Uni, alors là aussi, si je reprends par exemple la politique mise en place par David Cameron à partir de 2010, donc vraiment une politique qui était en faveur de la réduction des déficits publics et de la dette publique, une politique d'austérité, il y a eu le souhait de réduire la pauvreté chez les retraités, par exemple. Et on constate effectivement aujourd'hui, 10 ans plus tard, que la pauvreté des retraités. Alors, au Royaume-Uni, il y a un système de retraite publique qui n'est pas du tout celui que nous avons en France, où le système public est pour le coup très très réduit, pas du tout comme le système de santé britannique, et où il faut que les retraités cotise auprès de fonds de pension. Et et David Cameron a pris en compte cette évolution de la pauvreté des retraités qui avait été très très forte avant son arrivée au pouvoir et a changé les règles d'indexation des systèmes de retraite publique. Et on voit aujourd'hui, 10 ans plus tard, que la pauvreté chez les retraités au Royaume-Uni a beaucoup baissé. Par contre, pour les enfants, par exemple, ça c'est un sujet sur lequel les Britanniques aussi depuis longtemps constatent qu'il y a une pauvreté. Bon, il y a une pauvreté de façon générale dans la société qui est plus importante au Royaume-Uni qu'en France, par exemple. Mais chez les enfants, c'est particulièrement vrai. Et quand Tony Blair avait été élu en 1997, il avait mis comme objectif d'éradiquer la pauvreté des enfants à l'horizon de 2020. Aujourd'hui, on est en 2020, la pauvreté des enfants a à peine baissé. On est encore à autour de 20% d'enfants qui sont pauvres. Alors, sur les critères de pauvreté, c'est toujours difficile. Le chiffre que je vous indique là, c'est le chiffre habituel qu'on donne, qui est le pourcentage de personnes qui ont moins de 60% du revenu médian. C'est un concept fragile, certes, mais on voit qu'en tout cas, pour ce qui concerne les enfants, au Royaume-Uni, on n'a pas eu de baisse de la pauvreté au cours des 20 dernières années.
Et donc, c'est dans un contexte social déjà difficile que le pays a été touché par la pandémie. La crise a provoqué une explosion de la pauvreté outre-Manche.
Avant cette situation avec le coronavirus, on distribuait environ 110 colis par semaine aux personnes qui venaient à la banque alimentaire, ce qui permettait de nourrir environ 250 personnes par semaine. Aujourd'hui, ce sont 250 personnes par jour, 5 à 6 jours par semaine.
Nous avons vu des travailleurs indépendants
qui n'ont plus de revenus. Des familles qui sont vraiment en difficulté, ce genre de choses. Une crise comme celle-ci, c'est sur les plus pauvres qu'elle a le plus d'impact. C'est toujours le cas et ce n'est pas juste.
Le témoignage de Daphne Eikens, la directrice générale de la banque alimentaire de Hammersmith & Fulham, un arrondissement de l'ouest de Londres. La pauvreté a été encore aggravée par la crise sanitaire, Catherine Mathieu.
Oui, alors elle a été, je pense, pour le moment, peu aggravée. Alors effectivement, déjà aujourd'hui, les banques alimentaires sonnent l'alarme au Royaume-Uni en disant « Attention, nous voyons le nombre de personnes qui viennent nous demander des colis alimentaires qui augmentent. » Mais aujourd'hui, il ne s'est presque rien passé pour les personnes au Royaume-Uni en termes d'impact économique du coronavirus. Presque rien par rapport à ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Hein, parce que vous mentionniez au début de votre émission la baisse de 20% du produit intérieur brut britannique au deuxième trimestre. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement, des mesures du type de celles qu'on a prises en France, d'aide de dispositifs d'activité partielle, donc de maintien du revenu des salariés à hauteur de 80% de leur salaire jusqu'à un plafond de 2500 livres, donc à peu près 2750 euros par mois. Il y a eu une petite revalorisation du crédit universel, les aides qui concernent les salariés ou les personnes qui ont les revenus les plus faibles. Et donc pour l'instant, on a peu d'impact économique du coronavirus, mais cet impact, la grande crainte, c'est qu'il augmente dans les mois qui viennent, puisque le dispositif, particulièrement le dispositif de chômage, enfin d'aide d'activité partielle qui a été mis en place par le gouvernement britannique, doit s'arrêter fin octobre. Et s'il s'arrête, très probablement, on verra une forte hausse du chômage au Royaume-Uni. Et là, les personnes qui aujourd'hui sont déjà dans une situation fragile vont voir leur nombre augmenter très fortement. Je pense que le problème, c'est intéressant d'ailleurs que les banques alimentaires, enfin c'est important qu'elles le signalent dès aujourd'hui, qu'elles voient une augmentation du nombre de personnes qui viennent les voir, mais ça n'est rien par rapport à ce qu'on risque de voir dans les mois à venir.
Il y a la question du chômage sur laquelle on va revenir, et puis il y a celle de la précarité, puisqu'on a constaté une forte augmentation de contrats zéro heure. Ce sont des contrats qui n'offrent quasiment aucune protection sociale, Catherine Mathieu.
Oui, le principe de ces contrats, c'est de dire qu'une entreprise peut vous embaucher sur un contrat zéro heure et elle vous appelle le matin pour vous dire on a besoin de vous aujourd'hui une heure ou deux heures et puis chaque jour peut-être une heure ou rien. Et donc effectivement ces contrats zéro heure qui en fait étaient restés en nombre plutôt stable jusqu'au début de la crise ont vu leur nombre augmenté récemment. On est pratiquement à 1 million, je crois, aujourd'hui d'emplois zéro heure, alors qu'on était à 800 000 à peu près avant le début de la crise. Donc ça, c'est un premier élément qui montre que la précarité augmente. On a vu aussi du côté des personnes, des indépendants, qui sont aussi aujourd'hui dans des dispositifs, qui bénéficient aujourd'hui de dispositifs d'aide du type de celui d'activité partielle, que le nombre de personnes qui étaient dans ces situations se dégrade. Donc on est vraiment dans une situation où on est un petit peu sur le fil du rasoir aujourd'hui au Royaume-Uni, côté marché du travail.
Il faut dire que la crise économique qui frappe le Royaume-Uni est particulièrement violente, comme on commençait à le dire. Il va nous falloir comprendre pourquoi. On va en parler dans un instant. The kind people have a wonderful dream. Margaret McGillity. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you
make me feel so old inside. Unkind people, do not shelter this dream, make it real, make the dream real, make the dream real, make it real.
Margaret and the Guillotine de Morrissey, le chanteur des Smiths qui évoque ici Margaret Thatcher. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Catherine Mathieu pour parler des blessures sociales du Royaume-Uni. Alors le pays a connu l'une des pires récessions d'Europe. Son PIB a chuté de 20% au deuxième trimestre selon l'Office national des statistiques. C'est un décrochage qui est dû au confinement plus long au Royaume-Uni qu'ailleurs, Catherine Mathieu.
C'est surtout, en fait, que le confinement a commencé un peu plus tardivement au Royaume-Uni qu'ailleurs. Donc le 23 mars au Royaume-Uni, le 14 mars en France. Donc en fait, il y avait eu une baisse du produit intérieur brut plus faible au Royaume-Uni qu'en France au premier trimestre. Un PIB qui n'avait baissé que, entre guillemets, de 2,4% au Royaume-Uni. Et qui a baissé beaucoup plus nettement au deuxième trimestre de 20%. Alors derrière ce 20%, je pense quand même, juste, on peut faire un petit aparté en disant que quand même, la mesure des indicateurs est particulièrement difficile en période de crise, que les enquêtes sont beaucoup plus difficiles à mener, d'une part, que d'autre part, il y a des questions de méthode qui se posent. Et par exemple, sur cette baisse du PIB britannique, on constate, quand on regarde les évolutions des différentes composantes du PIB, qu'il y a eu une forte baisse de la consommation publique, et qu'en fait, la façon dont les comptables nationaux britanniques comptabilisent la production de services publics n'est pas la même que celle qu'on a utilisée par exemple en Allemagne, et la France a utilisé une méthode un peu intermédiaire. Et aujourd'hui, par exemple, avec une baisse du PIB de 10% en Allemagne au deuxième trimestre, 20% au Royaume-Uni, on peut dire que 3 points de l'écart peuvent s'expliquer par des comptabilisations de services publics particulièrement. Un exemple concret, les écoles ont fermé pendant la période de confinement. Pour les comptables nationaux britanniques, il n'y avait plus d'enfants qui allaient à l'école. Donc, les enseignants n'enseignaient plus, sauf s'ils faisaient des cours en visioconférence, mais pour ceux qui ne faisaient pas de cours en visioconférence. Donc, on a considéré qu'il n'y avait plus de production de services publics en matière d'enseignement pour ces fonctionnaires. Donc, il y a dans la baisse du PIB britannique, simplement pour dire, et comparé par rapport aux autres pays, on peut facilement enlever 3 points de PIB de l'écart.
Une baisse ça, c'est moins une forte que une ce qu'on peut imaginer, forte. Mais tout de même, il y a sans doute des explications peut-être liées au modèle économique du Royaume-Uni qui explique cette baisse importante.
Alors donc tout de même une baisse moins forte, mais par contre cette baisse forte qui reste, elle est vraiment due à ce confinement très strict qui a été mis en place au Royaume-Uni et qui a vraiment porté sur le second sur le deuxième trimestre. Et ensuite, quand on regarde les différents secteurs touchés, eh bien, comme en France, les premiers secteurs touchés, bien sûr, la restauration, l'hôtellerie, tous ces secteurs qui ont un poids important aussi dans l'économie britannique, les transports, tous les secteurs de services. Bon, l'économie britannique, c'est principalement une économie de services. Donc, bien sûr, une forte chute d'activité dans ces différents secteurs. Alors, on commence à voir quand même, à partir sur les premières indications qu'on a pour juin, pour juillet, au moment où on sort du confinement, on a un redémarrage de l'économie britannique. Donc, si l'évolution de la pandémie ne se dégrade pas et si effectivement les Britanniques retrouvent l'activité, une activité non pas normale, mais tout de même proche de la normale dans un certain nombre de secteurs, on peut espérer qu'une grande partie de la baisse du PIB du deuxième trimestre sera effacée, mais pas tout. Très probablement pas tout, parce qu'aujourd'hui encore, de nombreux secteurs restent très touchés. Bon, bien sûr, l'aviation est touchée. tous les secteurs qui ont été, le tourisme bien sûr, même si c'est un poids moins important qu'en France, et donc de nombreux secteurs restent aujourd'hui avec une activité qui est inférieure à leur niveau d'avant-crise.
Il faut, pour vous, prolonger ce chômage partiel au-delà de la fin octobre, ou alors il y a un risque d'une explosion du chômage véritablement considérable. Il y a une étude qui estime qu'il y aurait 1 million d'emplois détruits dans l'année 2020.
Oui, je pense que c'est très important que le gouvernement annonce effectivement des mesures, parce qu'en fait, on est aujourd'hui sur un horizon de très court terme du côté du plan de soutien des emplois britanniques. Octobre, donc la fin octobre, pour le soutien à l'activité partielle, donc c'est demain. Quelques mesures qui ont été prises pour soutenir l'activité dans la restauration et l'hôtellerie, notamment une baisse du taux de TVA de 21% à 5%. Ça sera en vigueur jusqu'au mois de janvier, mais c'est quand même un horizon qui est très court. Et donc, il faut absolument que, je pense, et il y a une pression qui s'exerce sur le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, depuis maintenant quelques jours, pour qu'il dise ce qu'il compte faire au-delà de l'horizon de la fin octobre, pour éviter qu'on ait une hausse énorme du chômage. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Alors, on est dans un calendrier au Royaume-Uni où, en principe, le chancelier de l'échiquier devrait présenter un nouveau budget au mois de novembre. Il semblerait pour l'instant qu'il ne soit pas prêt à annoncer des mesures d'ampleur, mais s'il n'annonce rien avant la fin d'octobre, c'est vraiment terrible. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui vont commencer à envisager sérieusement des licenciements, et effectivement on verra une forte hausse du taux de chômage d'ici la fin de l'année si aucune nouvelle mesure n'est prise.
Il y a tout de même un plan de relance qui a été lancé par le gouvernement britannique. Je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu et qu'on compare le plan de relance britannique et le plan de relance français. Et d'abord, des mesures spéciales ont été prises en faveur des restaurateurs. Je vous propose d'écouter justement le ministre des Finances, Rishi Sunak. C'était le 8 juillet dernier.
The final measure I'm announcing today,
la dernière mesure que j'annonce aujourd'hui n'a jamais été essayée auparavant au Royaume-Uni. Ce moment est unique. Nous devons faire preuve de créativité afin de ramener les clients dans nos restaurants, les cafés, les pubs et protéger les 1,8 million de personnes qui y travaillent. Je déclare aujourd'hui que pendant le mois d'août, nous accorderons à tout le monde dans le pays une réduction « eat out to help out », manger dehors pour aider. Les repas pris du lundi au mercredi dans les enseignes participantes bénéficieront d'une réduction de 50% jusqu'à un maximum de 10 livres par personne, y compris pour les enfants.
Le gouvernement britannique a donc décidé de payer la moitié de la note au restaurant du lundi au mercredi dans la limite de 12 livres par personne, 12 euros par personne, 10 livres. Cette mesure a été efficace, Catherine Mathieu ?
Elle semble avoir été très efficace. On parle aujourd'hui de 100 millions de repas qui auraient été achetés par les Britanniques selon ce plan. Ça dépasse l'objectif que s'était fixé le gouvernement, mais ça reste quand même petit comme impact. Hein, comme c'était une bonne mesure à prendre pour relancer l'activité dans la restauration.
Et pour sauvegarder l'emploi des jeunes qui sont très présents dans la restauration, c'était aussi ça l'objectif.
Oui, mais vous voyez, une mesure qui ne s'applique que sur le mois d'août, qui fonctionnait du mardi au jeudi. Donc c'était bien effectivement pour que les gens reviennent au restaurant et pas le week-end.
Du lundi au mercredi, je crois.
Du lundi au mercredi, pardon. Donc c'était une bonne mesure pour faire revenir les Britanniques dans les restaurants. Mais c'est vraiment un exemple d'une mesure à très court terme. Et puis la question de la restauration, enfin moi, il me semble par exemple que la mesure qui a été prise, qui a été une baisse de taux de TVA sur la restauration jusqu'au mois de janvier, ça permet d'inscrire une mesure un peu dans la durée, au moins sur quelques mois. Cette mesure sur les restaurants, le eat out to help out, c'était plus une mesure vraiment de très court terme, je dirais pourquoi pas, mais c'est pas elle qui va résoudre le problème dans la restauration. Puis alors si on doit l'associer aujourd'hui aux mesures qui sont prises par le gouvernement britannique, attention, on veut éviter une remontée des cas, il faut pas qu'on ait plus de 6 personnes qui se retrouvent ensemble, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça veut dire que déjà aujourd'hui, pour les restaurateurs britanniques, se pose la question d'avoir des tables qui ne sont pas plus de 6 personnes, de garder les distances entre les tables. Donc il y a des contraintes sanitaires qui restent là. Donc ce plan était probablement une bonne chose, mais ça n'est pas lui qui va pouvoir... C'est vraiment un tout petit, une toute petite mesure.
Est-ce qu'on peut comparer l'ampleur de ce plan de donc 33 milliards d'euros, le comparer avec le plan français 200 milliards d'euros qui a été lancé il y a quelques jours, et notamment sur la question de la transition écologique, car il y a aussi dans le plan britannique des mesures en faveur de la transition écologique.
Alors le plan de 30 milliards. Dans ce plan de 30 milliards, justement, la mesure sur pour les restaurants dont on parlait à l'instant représentait 500 millions. Donc c'était vraiment une toute petite mesure. Hein. Sur les 30 milliards, la comparaison avec le plan français, ça n'est pas évident parce que les 30 milliards portent vraiment sur du très court terme au Royaume-Uni. Hein, vraiment, les mesures de réduction de TVA, les mesures de soutien à la restauration, sur du très court terme, et ne vont pas sur un horizon de plus long terme. Alors justement, dans le budget qui devrait être présenté en novembre, et donc pour l'instant sur lequel on a aucune information précise, il devrait y avoir des évolutions de dépenses à moyen terme. Ça, c'est quelque chose qui est habituel dans le cadre de la présentation du budget d'automne. Le gouvernement doit faire des projections de dépenses à moyen terme. Et ça, voilà, on aimerait bien savoir aujourd'hui ce que nous prépare le chancelier de l'échiquier britannique, mais on n'a aucun élément là-dessus. Et sur les mesures en faveur de l'écologie qui ont pu être prises côté français, il y en a eu aussi côté britanniques, mais elles étaient déjà annoncées dans le budget qui avait été présenté en mars. Et le gouvernement britannique actuel a déjà mis une dose de mesures, une petite dose, je dirais, de mesures en faveur de l'écologie, de la rénovation des bâtiments.
Mais 3 milliards d'euros au Royaume-Uni contre 30 milliards en France.
Voilà, on est sur des petits montants annoncés pour l'instant. Mais encore une fois, ce sont des montants qui avaient été annoncés en mars et on ne sait pas aujourd'hui ou du moins dans un mois ou deux, ce que nous annoncera le gouvernement britannique qui, pour l'instant, n'est que sur du très court terme.
Comme ailleurs en Europe, ces dépenses budgétaires au Royaume-Uni ont fait exploser la dette du pays. Or, le Royaume-Uni, contrairement à la France, entend rembourser la dette par l'impôt. C'est ce qui est dans les tuyaux à l'heure actuelle, Catherine Mathieu ?
Je ne pense pas que ce soit exactement ça. Parce qu'en fait, il faut déjà arriver à décrypter ce que souhaite le chancelier de l'échiquier qui n'est en poste que depuis quelques mois.
Au mois de janvier, il est arrivé juste avant le confinement.
Il est arrivé juste avant le confinement, effectivement. Et ce qu'il a annoncé, ce qu'il semble dire, c'est qu'il souhaite que les finances publiques soient rétablies le plus rapidement possible. Ça, c'est la position habituelle des gouvernements conservateurs qui veulent toujours montrer qu'ils sont très crédibles sur le plan des finances publiques. Mais, par exemple, dans le dernier budget qui a été présenté en mars dernier, on a renoncé à des baisses d'impôts sur les sociétés. Le taux d'imposition a dû passer de 19% à 17%. Ça a permis d'économiser 7 milliards de dépenses du côté pour le budget britannique. Donc effectivement, il y a le souhait du côté du gouvernement de montrer qu'on est sérieux sur le plan budgétaire et qu'on veut pour le contribuable, montrer qu'on gère bien les comptes. Mais en même temps, il y a un grand pragmatisme qui est là aussi. Et le dispositif d'activité partielle qui a été mis en place au Royaume-Uni est très généreux du point de vue par rapport à la pratique britannique actuelle. Hein. Dans le marché du travail britannique, habituellement, qu'est-ce qu'on aurait dit en 2008 ou avant ? Eh bien, il y a une crise qui arrive, eh bien, le taux de chômage va beaucoup monter, les personnes vont être licenciées, et quand la croissance sera de retour, les personnes seront réembauchées. Et en attendant, voilà, le chômage augmente, le chômage diminue, mais ça n'est pas l'État qui va intervenir sur le marché du travail. Or, là, cette fois-ci, le gouvernement est intervenu très vite, très tôt et massivement pour éviter la montée du taux de chômage. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ce gouvernement conservateur va se positionner.
Il parle en tout cas d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 19 à 24%, ce qui est à rebours de la tendance partout ailleurs dans le monde.
Oui, et surtout à rebours de la position
de la politique habituelle des conservateurs,
qui avaient depuis de nombreuses années dit qu'ils allaient baisser le taux d'imposition des sociétés. Ce qu'ils avaient fait, effectivement, ils avaient envisagé de le baisser jusqu'à 17% cette année, ils l'ont laissé à 19%. Et maintenant, c'est vrai, envisager que le taux d'imposition des sociétés remonte au Royaume-Uni, c'est assez, ça peut paraître étonnant.
Ce qui reste tout de même assez bas, 24%, je crois, si on le compare au niveau international.
Bien sûr, bien sûr. Mais ça change quand même du côté du gouvernement aujourd'hui britannique. Du côté des conservateurs qui sont en place aujourd'hui, prenons le cas par exemple de Boris Johnson, on a toujours été très favorable au soutien des entreprises, à la baisse de l'impôt sur les sociétés, à montrer l'attractivité de l'économie britannique. Et donc, c'est un petit peu étonnant, mais je pense que dans la situation actuelle de la pandémie, le gouvernement conservateur souhaite aussi montrer que l'effort ne va pas reposer sur tout le monde. Et en particulier, on peut revenir aussi à cette question des élections législatives de décembre dernier où Boris Johnson a été triomphalement élu, mais pas uniquement par l'électorat conservateur habituel favorable à des baisses d'impôts, en particulier sur les entreprises, mais aussi par une frange de l'électorat travailliste dans les bastions du nord de l'Angleterre qui... eux ont cru au message de Boris Johnson en disant « nous allons dépenser davantage pour le NHS, faire des dépenses d'investissement public, d'infrastructures ». Et donc en fait le gouvernement actuel essaie un peu, je pense, de ménager la diversité de son électorat et donc de montrer qu'il ne va pas mener une politique digne de Margaret Thatcher.
À propos de cette élection de 2019 et aussi de l'effort budgétaire, je vous propose d'écouter Jeremy Corbyn, l'ancien chef du Parti travailliste. Il réagissait donc à la hausse des dépenses publiques dans une interview à la BBC le 27 mars dernier.
I did everything I possibly could.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour gagner les deux élections et pour signaler aux personnes de ce pays que la seule façon d'unifier notre société est d'être prêt à investir. On m'a accusé de vouloir dépenser plus d'argent que nous pouvions nous le permettre afin de corriger les injustices sociales de notre pays. Je ne pensais pas que cela ne prendrait que 3 mois pour prouver que j'avais absolument raison. C'est ce qui est démontré par la somme que le gouvernement est prêt à verser et que le Parlement vient d'accepter pour régler la crise du coronavirus. C'est un autre point de bascule dans la vie politique de notre pays et qui se retrouve dans tous les autres. Le coronavirus nous a fait réaliser que nous ne sommes en bonne santé que si notre prochain est en sécurité. La politique actuellement menée par les conservateurs, c'est une révolution dans le pays de Margaret Thatcher, Catherine Mathieu.
Oui, je pense d'une certaine façon, oui, alors pourquoi je dis d'une certaine façon, c'est que je ne sais pas à quel point cette politique va durer. mais effectivement, on a déjà vu, avec l'arrivée de Theresa May en 2016 au poste de Premier ministre, un certain nombre de changements dans la politique des conservateurs, notamment avec une forte revalorisation du salaire minimum et un objectif de fixer le salaire minimum à 60% du salaire médian, ce qui là aussi est complètement à l'opposé de ce qu'aurait fait un gouvernement libéral de type de celui de Margaret Thatcher. Donc objectif de porter le salaire minimum adultes, parce qu'il y a des taux jeunes aussi au Royaume-Uni qui sont plus faibles, mais pour les adultes à 60% du salaire médian, ça c'est une revendication de la France à l'échelle de l'Union européenne depuis longtemps. Mais ça n'est pas du tout une revendication habituelle des Britanniques. Et puis...
Sachant, pardon de vous couper, que le salaire minimum a dépassé le salaire minimum français en janvier au Royaume-Uni.
Oui, c'est-à-dire que là maintenant on est dans une situation aujourd'hui au Royaume-Uni, enfin aujourd'hui, on va se placer juste avant la pandémie quand même, où on avait un salaire minimum qui effectivement avait atteint 60% du salaire médian au Royaume-Uni. Et puis, l'objectif du gouvernement de Boris Johnson de porter ce salaire minimum à 2/3 du salaire médian en 2024, sous réserve de l'évolution de la situation économique. Donc tout ça, c'était avant la pandémie. Mais c'est pour vous donner, vous montrer un exemple d'un changement du côté des conservateurs en termes de politique sur la question des salaires. Hein, de dire qu'il faut que les personnes puissent gagner un salaire décent au Royaume-Uni. Donc ça, c'était déjà un premier élément.
Et il y a la question des salaires, il y a la question, comme vous le disiez, de l'investissement dans la santé, mais aussi dans l'éducation. Là encore, c'est un tournant de cette politique qui est menée par les conservateurs.
Et en fait, c'est un tournant parce que c'était quelque chose que les travaillistes appelaient depuis longtemps, et en particulier effectivement récemment Jeremy Corbyn, mais que les conservateurs disent qu'il faut mettre aussi davantage d'argent dans l'éducation pour augmenter le niveau de qualification des Britanniques, qu'ils prennent en compte cette dimension du rôle de l'État dans l'éducation, dans la santé. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qui, bien sûr, quand ça a été indiqué dans les campagnes électorales, a fait voter un certain nombre de Britanniques, notamment vivant dans les régions les plus défavorisées du nord de l'Angleterre, pour les conservateurs. Ce qui est quand même, moi, très, très étonnant.
C'est aussi lié à la promesse formulée par Boris Johnson de désenclaver les territoires du Nord. Où est-ce qu'on en est de cette promesse, Catherine Mathieu ?
Alors, cette promesse, pour l'instant, peu de pas ont été faits. Hein. Il faut bien voir que Boris Johnson a été... les élections ont eu lieu en décembre dernier. Bon, les premiers éléments que j'ai vus pour l'instant donc, portent sur l'emploi dans le secteur de la santé où apparemment il se passe des choses. En matière d'investissement, nécessairement, ça prend plus de temps. Hein. Donc, quand on a des projets de construire des lignes à voie rapide, ça sera nécessairement quelque chose qu'on verra avec un petit peu plus de délai. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, les premiers éléments qui, me semble-t-il, sont visibles, sont du côté du secteur de la santé.
Et à ces défis gigantesques qui attendent le Royaume-Uni se rajoute le Brexit. Boris Johnson veut revenir en partie sur l'accord conclu avec le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Catherine Mathieu ?
Alors là, pour vous expliquer pourquoi...
Un sacré défi, là aussi.
Il faudrait beaucoup de temps. En essayant tout de même de le dire en relativement peu de mots, en fait, là, ce qu'essaye de faire Boris Johnson, et ce qu'il a réussi à faire hier soir, c'est faire voter une loi sur le marché intérieur au Royaume-Uni. Cette loi sur le marché intérieur, elle remet en partie en question des éléments qui avaient été validés par le Royaume-Uni sur le protocole signé avec l'Union européenne sur la question de l'Irlande du Nord. Et donc, en fait, ce que souhaite faire Boris Johnson, me semble-t-il, c'est assurer que le Royaume-Uni, une fois que le Royaume-Uni aura complètement... il a quitté l'Union européenne le 31 janvier, mais nous sommes dans la période de transition. Une fois que les nouvelles relations seront en place entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, que le Royaume-Uni reste bien un pays entier, et qu'il n'y ait pas des réglementations différentes qui s'appliquent en Irlande du Nord, des réglementations différentes de celles qui s'appliqueraient au Royaume-Uni. Sauf que dans le protocole signé avec l'Irlande du Nord, eh bien certains éléments font que effectivement en Irlande du Nord, il faudrait, une fois la période de transition terminée, une fois le Royaume-Uni totalement sorti de la situation actuelle, que l'Irlande du Nord respecte les normes en vigueur à l'intérieur de l'Union européenne.
Donc Boris Johnson est aujourd'hui prêt à prendre le risque d'un no deal avec l'Union européenne ?
Il me semble que oui, il me semble qu'il est prêt à prendre ce risque parce que effectivement, alors s'est-il rendu compte en signant le protocole avec les Européens sur l'Irlande du Nord que ce protocole allait plus loin que ce qu'il souhaitait ? Où s'en est-il rendu compte plus récemment ? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Mais effectivement, si ce protocole est pris à la lettre, ça veut, ce qui devrait être le cas puisque le Royaume-Uni l'a signé en principe, ça voudrait dire que l'Irlande du Nord devrait respecter non seulement les réglementations en place à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi que les marchandises qui seraient exportées d'Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne devraient respecter ces normes. Il y a cet élément-là sur les exportations de marchandises qui posent problème en termes d'intégrité du Royaume-Uni. Et puis la question des aides d'État, où aussi le Royaume-Uni a accepté dans le protocole que les aides d'État en Irlande du Nord soient les mêmes que celles à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, Boris Johnson, me semble-t-il, en faisant passer cette loi sur le marché intérieur britannique, est prêt à un no deal.
On a beaucoup parlé de l'inquiétude d'un no deal, mais est-ce que le coronavirus n'a pas rebattu les cartes? Est-ce que ce serait si grave qu'il n'y ait pas de deal avec l'Union européenne pour l'économie britannique, Catherine Mathieu?
Bien, ça poserait tout de même le problème s'il n'y a pas d'accord au 31 décembre de la période qui démarrerait juste après avec le retour de droits de douane, de contrôle aux frontières. Il y aurait nécessairement une période assez chaotique pour les flux de commerce, de marchandises entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne. Est-ce que le coronavirus a rebattu les cartes? Certains vous diront que du côté des Brexiteurs, on se dit après tout, on a déjà une baisse du PIB britannique qui est actuellement de l'ordre de 20%. Et si avec le Brexit, on perd 3% ou 4% du PIB britannique, ce qui est la moyenne de ce qu'indiquent les études académiques, eh bien en fait, ça ne se verra pas vraiment par rapport au choc de la pandémie. Mais je pense que de façon plus fondamentale, ce que souhaitent tout de même les entreprises britanniques, c'est pouvoir continuer à échanger de façon simple avec les pays de l'Union européenne. Donc c'est là que se pose vraiment la question du no deal. Est-ce que Boris Johnson osera aller jusqu'à l'absence d'accord et avec les entreprises britanniques qui lui diront mais attendez, nous ne sommes pas encore prêts à gérer le retour à des règles qui seraient des règles de l'Organisation mondiale du commerce? Ou est-ce que finalement il ira? Ça, c'est vraiment aujourd'hui encore un grand point d'interrogation.
Est-ce que cela dépend de l'accord qui pourrait être mis en place avec le peut-être successeur de Donald Trump, ou peut-être Donald Trump en tout cas avec les États-Unis, un accord de libre-échange, et aussi avec le Japon? Il y a des discussions qui sont en cours aujourd'hui. Est-ce que cela dépend aussi de ces discussions-là, Catherine Mathieu?
Je ne pense pas vraiment. Alors, côté américain, les discussions sont arrêtées effectivement parce qu'un, il y a la campagne électorale américaine, et deux, discuter avec Donald Trump, si on peut le dire un peu rapidement, c'est quand même assez difficile. Par contre, avec le Japon, effectivement, Liz Truss, la secrétaire d'État au commerce, a réussi à obtenir un accord de principe. Donc là, ça semble vraiment bien avancé. Et dans le fond, la vraie question aujourd'hui pour les Britanniques, c'est de négocier avec l'Union européenne une sortie qui sera la moins difficile possible. C'est vraiment la moitié des exportations britanniques vont vers l'Union européenne. Après, avec les autres pays, c'est tout de même pour le moment plus limité. Mais le point fort, effectivement, aujourd'hui du gouvernement britannique dans les négociations avec l'Union européenne, c'est d'avoir montré qu'il a pu négocier un accord avec le Japon. Et ça, c'est un point politique important.
C'est en tout cas un dossier qu'on va continuer à suivre de très près. Merci beaucoup, Catherine Mathieu, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci à vous.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le débat sur la 5G se politise après la tribune d'élus verts et de gauche pour son interdiction jusqu'à l'été 2021. Alors que la nouvelle technologie doit être installée dans les prochains mois, la promesse de quatrième révolution industrielle fait toujours rêver et douter. Est-ce que c'est un mythe?
Eh bien en tout cas, le rejet massif et parfois ironique qu'a provoqué cet appel au principe de précaution révèle bien la tension autour de la 5G en France. En partie à cause du calendrier, puisque les enchères pour l'attribution des fréquences commencent le 29 septembre, en partie parce que même si l'on exclut aussi les postures politiques de préélectorales, le débat sur l'opportunité de cette nouvelle technologie mobile et sur les dangers des micro-ondes qu'elle utilise n'est toujours pas tranché. Les autorités elles-mêmes ont hésité, l'ANSES prévoit encore des études d'impact, l'ARCEP pousse au développement et le gouvernement français ne s'est décidé qu'en début d'année. Conséquence, l'opinion française est assez mal informée, disait l'ANSES, et facilement parasitée par un dialogue de sourds entre les pro et anti 5G qui s'accusent mutuellement d'être Cassandre et Pandore.
Catastrophe sanitaire ou révolution industrielle, ce sont deux visions inconciliables, Xavier.
Eh bien, la 5G alimente les fantasmes technologiques positifs ou négatifs parce qu'avec des débits de 10 fois et une densité de connexion de 100 fois supérieure à la 4G, elle est la promesse d'un monde d'objets connectés sans câble, si bien qu'on a tôt fait de parler de quatrième révolution industrielle. industriels. D'un autre côté, l'intensité des communications jamais atteintes et dans de très hautes fréquences non utilisées jusque-là provoque chez certains la vision apocalyptique d'une humanité plongée dans un gigantesque micro-ondes. Alors les autorités ne sont pas insensibles aux préoccupations sanitaires. Faute d'études d'impact, l'ARCEP n'a pour l'instant pas commercialisé la bande de fréquence la plus élevée, celle des 26 GHz. Et puis selon que l'on prend les ONG ou les industriels, les prévisions sont également très variables en ce qui concerne l'impact environnemental et économique, émissions de CO2, consommation électrique, effet de l'automatisation sur l'emploi. Alors certains professionnels ont beau vanter une 5G plus vertueuse que ses ancêtres, le problème est aussi que le débat n'est pas seulement technologique, il porte sur les choix de société qu'elle implique, disent les signataires. Ainsi, l'un de leurs adversaires rappelait l'opposition de la ville d'Orléans à l'arrivée du train au 19e siècle, parce que la vitesse aurait rendu les gens sourds et aveugles. Eh bien, il oublie de dire que l'opposition venait aussi des professions bien ancrées et déstabilisées par le chemin de fer. Alors, pour remédier à ce huis clos technologique et éviter le syndrome du prophète maudit, un professionnel propose une méthode de démonstration locale plutôt qu'une explication globale. Par exemple, un Tour de France 5G de bus autonome médicalisé. Reste à voir si ces médecins à roulettes emplis de robots scalpels séduiront plus qu'ils ne les effraieront les 30% de Français déjà réticents.
Face à cela subsiste l'enjeu stratégique d'une nouvelle compétitivité, Xavier ?
Oui, là, il y a déjà une urgence technique, éviter la saturation des réseaux, puisque la consommation de données augmente de 40% tous les 12 mois. Et la France, qui n'en est qu'à l'expérimentation, a pris du retard sur la trentaine de pays industrialisés qui utilisent déjà la 5G. Et puis, dans le tunnel de la relance, la promesse économique brille d'autant plus avec ses milliards d'objets connectés et ses capteurs et ses milliards de milliards d'informations en temps réel. Le pouvoir d'organisation et donc de rationalisation des coûts de la 5G est inégalé. Les usages professionnels devraient d'ailleurs représenter 80% de la consommation. Industrie, agriculture, gestion urbaine, logistique ou télémédecine. Ce sera même le vaccin du 21e siècle, dit l'économiste Olivier Babot. Et d'abord, un vaccin anti-gaspillage qui permettrait de pouvoir remédier aux 42 milliards d'euros d'actes médicaux non nécessaires en France.
Et là où se ferait plutôt le consensus, c'est sur le rôle de la 5G comme outil de souveraineté.
Alors là, c'est le mantra de tous, de Yannick Jadot, signataire de la Tribune, à Bruno Le Maire, en passant par la Commission européenne, mais avec surtout en ligne de mire la participation de Huawei aux équipements, le risque de fuite de données et de sanctions américaines qu'il implique. Dans les faits, Huawei divise au sein même des promoteurs de la 5G en France et dans l'Union. Malgré un plan de développement coordonné prévu dès 2016, chacun s'est lancé à sa manière. La Suède et la Finlande avec leurs propres équipementiers Ericsson et Nokia. L'Allemagne qui injecte 7 milliards d'euros via son plan de relance et qui hésite à choisir Huawei. Et puis le constructeur chinois qui connaît des fortunes variables selon les besoins politiques ou technologiques. La Roumanie et Monaco s'appuient dessus. Le Royaume-Uni la bannit et les autorisations françaises sont d'ailleurs limitées de 3 à 5 ans. Preuve que le principe de précaution peut toujours être réintroduit, tout dépend de la géométrie.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho. Lady des Black Pumas, c'est la fin du premier épisode de notre série intitulée « Quand je me compare, je me console ?» point d'interrogation. Demain, direction la Pologne, un pays qui a été exceptionnellement épargné par la crise sanitaire et économique. Maciej Witucki nous expliquera pourquoi. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.